Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthaz.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthaz.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthaz, bienvenue sur le 107, nous sommes au joie le lundi 19 juillet à 8h30. Au programme de cette matinale, nous avons enfin le temps de vous proposer la deuxième salve d'interview du festival de Saint-Enimi consacré à la BD, ce sera dans un instant, c'était début juillet. Et puis en deuxième partie d'émission, nous parlerons de méditation avec Laurent. C'est l'été qui bat son plein et ça fait plaisir. Profitons de ces derniers jours de liberté sans contrainte qui arrivent à grands pas. Il y aura évidemment de la musique comme d'hab, mais on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthaz. On doit toujours mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. C'est de cette manière que le président de la République a justifié lundi dernier le retour de la réforme de l'assurance chômage dans l'agenda politique. Cette dernière, déjà partiellement appliquée depuis le début du mois, sera, je cite, « pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre », a-t-il annoncé. Et elle passe totalement à la trappe à cause du pass sanitaire. Ils sont malins, n'est-ce pas ? L'un des changements majeurs de la réforme concerne les règles d'indemnisation des chômeurs. Ces dernières devraient normalement évoluer en juillet, mais le Conseil d'État a estimé fin juin que les incertitudes sur la situation économique ne permettaient pas de la mettre en place avant la fin septembre. Le gouvernement va donc devoir attendre début octobre pour modifier les modalités de calcul du salaire journalier de référence, le SJR. C'est cet indicateur qui permet de déterminer le montant de l'allocation chômage versée à un demandeur d'emploi. Dès le 1er octobre, le SJR prendra en compte le salaire mensuel moyen, autrement dit le salaire mensuel divisé par tous les jours du mois, même ceux non travaillés. Le SJR était jusqu'ici mesuré à partir des seuls jours travaillés. Une méthode de calcul qui avantageait les personnes alternant les contrats courts et les périodes d'inactivité plutôt que celles travaillant en continu. Le changement des règles d'indemnisation va donc pénaliser les chômeurs qui ont travaillé en discontinu ces dernières années, dont bien sûr les saisonniers qui bossent comme des fous en ce moment, vous les voyez partout. De même, c'est désormais 6 mois et non plus 4 pour débloquer ses droits au chômage. Les jeunes, qui arrivent souvent sur le marché de l'emploi avec des contrats courts, risquent évidemment d'en pâtir. L'UNEDIC évalue à 190 000 le nombre de personnes qui n'ouvriraient pas le droit dans l'année suivante, l'entrée en vigueur de la mesure. Mais après tout, nous ne sommes plus à sa prêt. Allez, on la voyait venir et ça ne fait que commencer à droite toute.
Sautocratie est une politique où la souveraineté est exécrée par le peuple. Sautocratie, régime politique où la souveraineté est exécrée par le peuple. C'est pas nous, j'ai des vivants qui me seraient vite plus contents. C'est parti des dizaines de millions qui comptabiliseraient ces moutons. Sautant à pieds joints dans le jardin de l'ignorance. Peu de progrès pour beaucoup de décadence. Promettons de manière inhérente bon nombre de lendemains qui les chantent. Plus personne ne gronde et se lament de la fronde. Mourir pour des idées n'est plus d'actualité. Même de mort lente à l'évidence, c'est un fait. Sautocratie, inarrêt de fait. Sautocratie, inarrêt, inarrêt. Le nez dans le formol, saoulé par des cas de belles paroles. Il lui faut pour qu'elle se réveille une élection présidentielle. Un 21 avril, oui, la fait froid comme en novembre. Où le pire attendait dans l'antichambre. Mais le pire reste à venir, comme le dit l'expression, pas sans rire. Sautocratie, inarrêt de fait. Sautocratie, inarrêt, inarrêt. Sautocratie, inarrêt de fait. Sautocratie, inarrêt, inarrêt.
Inarrêt,
Ça s'est passé début juillet, c'était à Saint-Émilion, c'était le festival Enimi BD. Et voilà qu'on a enfin le temps de vous diffuser les trois interviews. Et on commence avec Loïc Guanard, qui est dessinateur notamment de L'Orte de Dieu. Loïc, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bien, toujours au festival BD, comment ça s'est passé pour toi cette année ?
Eh bien, ça s'est passé plutôt pas mal. Moi, j'étais plutôt content de ces deux journées. Hein. On a eu un samedi un peu calme, mais là, un dimanche, alors je ne sais pas si c'est la pluie ou... Enfin bon, bref, mais enfin là, c'était nettement mieux. Voilà. Donc, très bien pour moi, en tout cas.
L'Orte de Dieu, c'est ça, hein, c'est ta BD. Comment l'aventure a démarré un peu pour toi et comment, de quoi ça parle pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Alors, donc L'Orte de Dieu, pour ceux qui connaissent, donc c'est un lieu qui se situe sur les pentes de l'Aigoual. C'est un arboretum. Et donc mon scénariste est parti de ce nom qu'il a vu sur la carte pour imaginer une histoire. Une histoire qui se passe dans une Lozère imaginaire. Donc c'est l'aventure en fait d'un jeune jardinier qui entre en possession d'objets qui vont lui permettre de faire revivre une petite peuplade d'êtres ailés. Hein, donc c'est un livre d'aventure, mais avec une pointe d'écologie et puis de poésie, quoi, voilà.
T'es édité, est-ce que... comment ça s'est passé C'est édité à...
Alors non, c'est de l'auto-édition en fait.
C'est de l'auto-édition, ok. Et ça c'est cool. Et comment ça se passe du coup? Parce que ça a un coût. Comment ça se passe pour toi?
Alors, l'auto-édition, donc ça veut dire qu'on réalise le livre, on l'imprime, et puis après, on le diffuse. Donc, et tout ça, c'est à notre charge, en fait. Hein. Donc, pour L'Orte de Dieu, on a procédé pour le financement, on est passé par un site de... Comment on appelle ça déjà du participatif, là.
Plateforme...
Donc par Ulule, en fait, donc en gros, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc on a pu obtenir la somme qu'on souhaitait pour faire imprimer le livre. Donc là, c'était plutôt cool. Et puis ensuite, restait le problème de la diffusion. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire un peu, de mon côté, de faire les festivals, les salons du livre. On essaye de voir auprès des libraires, mais c'est plus compliqué déjà. Donc on reste plutôt en local, hein, pour faire d'autres diffusions de livres. Donc on l'a sorti en 300 exemplaires. Donc là, pratiquement, on a tout vendu, quoi, pour L'Orte de Dieu, en tout cas. Hein. Donc on est vraiment très content de ça. Même si cette bande dessinée, à l'origine, je suis plutôt illustrateur. Donc la bande dessinée, pour moi, c'était un peu nouveau. C'est un travail qui est complètement différent parce que il y a une narration, enfin il y a une histoire à raconter. Donc faut qu'il y ait une cohérence là-dedans. Il faut rajouter des bulles, tout ça, donc tout ça c'est à prendre en compte. Et comme c'est pas mon activité principale, donc c'est un travail que j'effectuais donc le soir après le boulot. Donc ça m'a pris un peu plus de 4 ans pour la réaliser. Mais je suis content de l'avoir fait en tout cas.
T'étais quand même fan de BD, même si illustrateur est plus ta passion, t'étais fan de BD. Qui t'a inspiré? Qui t'a... C'est qui tes maîtres?
Oui. Pour les connaisseurs, clairement, c'est Moebius. Donc, que tout le monde doit connaître. Donc là, c'est ma référence un petit peu. Depuis longtemps, quoi. Je suivais son travail, parce que maintenant, malheureusement, il n'est plus parmi nous. Donc j'ai suivi son travail tout au long de sa carrière. Quand je voyais ses dessins, j'avais envie de faire la même chose, quoi. Donc, voilà. Donc, au départ, j'ai un peu dessiné pour moi-même. Et puis finalement, depuis 6 ans maintenant, je montre mon travail un peu au public. C'est intéressant de voir les réactions, ce que ça peut donner comme réaction. Oui, voilà.
J'ai ton mail en tout cas, et l'année prochaine, chaud pour un plateau BD sur Radio Bartas et Télédrail.
Oui, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, avec plaisir. Surtout que là, bon, j'ai un autre projet en cours, hein, donc avec un autre scénariste, mais bon, ce serait plutôt donc un récit illustré en couleur. Mais bon, ouais, ce sera l'occasion éventuellement d'en parler. Et voilà, ce serait. Oui, bien sûr.
L'Orte de Dieu, du coup, c'est écoulé. Là, il n'y en a plus, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris. Mais là, il y a mon ange que je vois là, que j'ai sous les yeux, qui est encore disponible.
Alors, ça, c'est la dernière production, donc la production 2021. Mais c'est un récit. Là, c'est pas de la BD, c'est un récit illustré. Ça se présente sous la forme d'une illustration en page de gauche et puis d'un texte en page de droite. Et là, on a travaillé avec donc le même scénariste que pour L'Ordre de Dieu. Mais on a travaillé différemment. C'est-à-dire que moi, j'avais une série de dessins que j'avais depuis longtemps, que j'ai retouché un petit peu. Et lui, il a fait le texte après. Donc on a travaillé un peu à l'envers, quoi, en fait. Hein. Mais bon, ça donne un livre, enfin moi, que je trouve très intéressant. Et bon, j'espère qu'il aura le même succès que pour L'Ordre de Dieu, quoi. Hein. Voilà.
Ça, on peut le retrouver sur Internet ?
Alors oui, j'ai un site internet, hein, c'est signeloic.blogforever.com. Et donc là, il y a toutes les informations, toutes les actualités et toutes les publications qu'on peut retrouver sur ce site. Voilà.
Merci Loïc.
Mais avec plaisir.
À l'année prochaine. Alors.
D'accord, à bientôt. Ouais.
Éric Hupsch, je pense que ça va devenir un petit rendez-vous assez annuel, tranquille, où on est tous les deux. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va et comment ça s'est passé pour toi cette année ?
À quel niveau ? Au niveau du festival ou de manière générale ?
De manière générale.
De manière générale, ça s'est bien passé parce que quand on est dessinateur de BD, on est un petit peu moins impacté par tout ce qui est confinement ou restrictions, puisqu'on est habitué en fait à travailler chez soi déjà, et on a un tempérament plutôt solitaire, donc bon, après on a besoin de voir du monde aussi, mais on supporte plus facilement ce genre de choses. Donc personnellement, j'ai pas vraiment souffert, ça s'est bien passé. Ça m'a permis de travailler tranquillement, puis d'essayer je me suis mis à faire à écrire des choses, des trucs que je ne me serais pas forcément autorisé à faire dans une période, on va dire, classique ou normale.
Ça veut dire, alors là, soit t'en as trop dit, soit pas assez, mais en tout cas, j'ai envie de savoir.
En fait, j'ai une page Facebook et sur laquelle, en fait, je publie régulièrement des petits textes que j'écris, ou alors ça peut être soit des tournements d'images, soit des textes, comment on pourrait dire, des petits poèmes, des petites nouvelles. Tout un style différent d'écriture. Et je me suis découvert le plaisir d'écrire. Voilà.
Alors, j'ai eu la chance, non, en tout cas, j'ai lu Topaz, ton adaptation de Pagnol que je n'avais pas lu l'année dernière, mais bon, on est venu là et je l'ai lu. C'est Topaz de Pagnol, c'est assez lent, c'est rigolo, etc. Comment on fait pour donner l'impulsion dans le dessin, comment ça se passe ? Parce qu'il faut lui donner un corps, une âme, comment ça se passe ?
Topaz, en fait, comme c'est une pièce de théâtre au départ, et les scénaristes ont fait un très bon travail d'adaptation, et notamment au niveau de la rythmique, c'est-à-dire que, comme c'est une pièce de théâtre au départ, il n'y a pas énormément d'action, c'est-à-dire que les personnages, ça va être beaucoup des dialogues entre les personnages, et ils ne vont pas trop se déplacer, ça sera surtout des scènes qui vont se passer autour dans un bureau, autour de tables, ou de gens en train de discuter, donc évidemment, pour une bande dessinée, ce n'est pas forcément adapté. Maintenant, étant donné que, on va dire, l'histoire en elle-même est assez intéressante au niveau des personnages, c'est-à-dire que chaque personnage sont vraiment sont truculents, c'est des personnages pagnolesques, comme on dit, donc très stéréotypés, mais en même temps avec de la finesse. Et surtout, c'est que les dialogues de Pagnol, c'est un très bon dialoguiste, Et les scénaristes sont venus justement dans un bon travail d'adaptation, arriver à transformer quelque chose qui est plutôt, enfin qui est destiné normalement à être présenté avec des acteurs sur une scène de théâtre, et en faire une petite sous-trame qu'on va pouvoir suivre dans une bande dessinée qui fonctionne très bien finalement, justement par ce travail d'adaptation et de rythmique qu'ils ont développé. Notamment en n'utilisant pas la totalité des dialogues ou des scènes, puisque sinon l'album aurait été trop long, ou alors il y aurait eu beaucoup trop de textes dans les bulles, et en laissant beaucoup moins de place au dessin. Et je pense qu'ils ont trouvé un très bon compromis, et moi en fait là-dedans, ben, je suis arrivé, on va dire, un petit peu comme un metteur en scène, comme pour tout ce qui était d'animer en fait cette adaptation. Et je pense le résultat est assez réussi. Voilà.
Je le dis, oui, très 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 réussi, sans problème. Ce personnage, ouais. Bon, allez voir Topaz. Tu seras encore ici l'année prochaine, tu reviens à Saint-Inimi.
J'espère revenir. Il faut dire que je crois que je suis le plus ancien, en tout cas qui a fait le plus d'éditions sur le festival. Puisque sur les 14 qui ont eu lieu, j'ai dû en faire entre 11 ou 12, je ne sais plus exactement, voire peut-être même 13. Donc je suis, on va dire, un pilier. Donc a priori, j'espère que je vais continuer à l'être. Sinon, le festival risque de s'écrouler.
C'est toi qui tiens les murs. Merci Eric.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Philippe, bon, on va finir ce reportage avec toi, puisque j'ai fait mon petit tour. Encore une fois, du beau monde, du grand monde, des bavards. Et je tombe sur le dernier, évidemment, qui va clôturer. On arrive à la clôture du festival. Comment ça s'est passé cette année?
Eh bien, ce qu'on avait pensé être extraordinaire l'an passé, c'est non seulement confirmé, mais amplifié. Donc ça veut dire que cette année, en termes de chiffres, tout simplement, on était à 3900 passages à la fin du samedi, alors qu'on était à 3002 l'an passé. Et à la fin du week-end, on est à 4890 passages, alors qu'on était à 4600 l'an dernier. Voilà, c'est affreux, mais les chiffres parlent. Ça veut dire que le succès se confirme. Ça veut dire que la formule qui consiste à se positionner sur le premier week-end de juillet est une excellente formule, parce qu'elle permet effectivement aux vacanciers de profiter de leur présence dans ce territoire, à la fois pour le festival et pour leurs vacances. C'est un territoire magique, chacun le sait. Et puis c'est une formule aussi qui aujourd'hui a trouvé sa raison d'être dans l'espace, puisque le fait qu'on ait ouvert 5 lieux permet à tous les visiteurs d'en profiter en toute sérénité, dans des conditions sanitaires raisonnables, et avec en plus une proximité des auteurs comme chacun les aime.
Et très honnêtement, pour avoir fait le tour, on est bien ici. Tous les auteurs et autrices ont le sourire. Vraiment, pour eux, pour elles, c'est du bonheur d'être là, quoi.
Eh bien, pour eux, ça a été, nombre d'entre eux nous l'ont dit, j'en vois un à côté de moi qui me le disait encore hier soir, c'est la bouffée d'air pur, quoi. 18 mois sans festival. Pas de certitude d'avoir un festival avant l'automne. Donc c'était ce qu'ils attendaient tous, et du coup c'est vrai qu'ils ont le plaisir d'être là, ils ont le bonheur de pouvoir rencontrer de nouveau leur lecteur, et ça c'est l'essentiel pour un dessinateur ou pour un auteur. Pouvoir enfin avoir de nouveau un contact direct avec son public, pouvoir échanger sur ses personnages, ses histoires, la façon dont on va les faire rebondir, etc. Ça paraît anodin quand on l'entend comme ça sur un stand, en fait pour eux c'est fondamental dans leur parcours.
Toi-même, en tant que, je pense que tu es créateur, fondateur, de, même si c'est une association de ce festival, pour toi ça doit être une fierté énorme de voir, c'est quoi la 14e édition, je crois, hein.
Oui, 14e édition. Alors il faut rester modeste, hein, c'est un travail d'équipe, même si notre équipe est petite, elle est solide, et puis surtout elle s'inscrit dans le temps. C'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire que chaque année, on rajoute un maillon à la chaîne, et ce maillon, il n'enlève pas le précédent. C'est ce qui fait que donc au bout de notre équipe, elle est là depuis 10 ans. Elle. Depuis 10 ans, eh bien, on a renforcé, on a construit, et aujourd'hui la pyramide est solide, elle a une excellente base, et on peut se permettre d'y mettre des blocs supplémentaires, d'avoir de l'imagination, et notamment l'apparition du manga, ça y est, ça se confirme. Cette année, on avait 5 mangas, ils ont fait un tabac. Donc l'année prochaine, il va falloir qu'on se pose la question de leur donner plus de place. Plus de place sur nos animations scolaires, plus de place bien sûr au moment du festival. Et donc à nous d'inventer, une fois encore.
Donc on prend rendez-vous pour la 15e édition, le premier week-end de juillet. Maintenant, d'ores et déjà, c'est acté ou c'est encore peut-être le dernier week-end de juin, où vous en êtes?
Non, il est clair que de toute façon, si on a le choix, et le choix ne nous appartient pas seulement, puisque les contraintes extérieures peuvent parfois nous mettre face à un calendrier différent, mais si on a le choix, ce sera le premier week-end de juillet, c'est certain.
Nous, ce sera signé avec Bartas, carrément. Merci beaucoup, Philippe.
Au plaisir, comme d'habitude.
On se retrouve dans un instant avec Laurent pour parler de méditation, mais on écoute d'abord Lennon, Working Class Hero.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Nous sommes donc ce matin avec Laurent, bonjour.
Bonjour.
La méditation et la pleine conscience, c'est ce dont il va être question aujourd'hui, entre autres choses. Merci d'être avec nous. Alors, t'as écrit
Merci
un livre.
De m'accueillir.
Avec plaisir. Mmh. T'as écrit un livre qui s'appelle 10 habitudes des gens heureux, on va en parler. Mais déjà, en ces temps bizarres et parfois difficile pour beaucoup de monde, la méditation, ça peut être un remède ou une porte de sortie, à ton avis, un espace de liberté ?
Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je dois dire que lors du premier confinement, j'étais, comme tout le monde, quand même un petit peu perturbé par la situation. Mais j'avais, je crois, la chance de disposer d'une certaine sérénité en me disant que finalement, me retrouver confiné dans mon appartement, j'habitais alors à Metz, dans un appartement en centre-ville, mais me retrouver confiné n'allait pas être si problématique que ça. J'y voyais plutôt une opportunité de pratiquer encore plus régulièrement la méditation. Maintenant, tu as parlé de remèdes et de portes de sortie. Eh ben, comme on l'a évoqué ensemble avant l'émission, la méditation, pour bénéficier de ses nombreux bienfaits, attestés maintenant par des études scientifiques, eh bien, il est préférable, sinon indispensable, de ne pas chercher à les obtenir, en fait. Si on pratique la méditation en vue d'obtenir des bienfaits, en vue d'obtenir un certain résultat, alors, finalement, ce n'est plus de la pratique, ce n'est plus de la méditation, et on passe à côté des bienfaits.
C'est d'ailleurs pour ça, parce que tu donnais de l'initiation à la méditation, ouais. Et c'est un peu pour ça que tu as arrêté, parce que beaucoup de monde pense que le résultat doit être immédiat, doit arriver tout de suite.
C'est tout à fait ça. Mais c'est compréhensible. Hein. On vit dans un monde où où les choses vont de plus en plus vite. Et on a tendance à... On s'est habitué, je crois, à tout avoir tout de suite, ou quasiment. En tout cas, pour nous, entre guillemets, occidentaux, qui avons la chance, entre autres, d'avoir un accès facile à l'eau potable ou à la nourriture, ce qui n'est pas le cas partout. Hein, donc, il y a encore des êtres humains sur cette planète qui n'ont pas cette habitude-là d'avoir tout,
et
tout
ça,
de suite.
C'est important de le rappeler. Hein,
ouais. Par rapport aux personnes à qui je proposais les initiations à la méditation, effectivement, je sentais cette attente de résultats immédiats. Si on s'attend à ça, ben, il vaut mieux faire autre chose que la méditation. Et il y a plein d'autres choses qui sont très chouettes aussi. On peut faire par exemple de la relaxation. Mais là, on commence à percevoir la différence entre méditation et relaxation. Relaxation, on sait quel est l'objectif. On sait ce qu'on veut. On veut être relaxé. Et si on fait une heure de relaxation, pardon, et qu'au bout d'une heure, on n'est pas relaxé, ben on se dit, ça n'a pas marché. D'accord ? La méditation, c'est quelque chose de complètement différent. Lorsque l'on médite, on est censé ne rien attendre de particulier. On s'ouvre à tout ce qui est. On accueille. D'accord ? Et si ce qui est, ce n'est pas un état relaxé, c'est un état peut-être un petit peu stressé, nerveux, eh ben on s'ouvre à cet état-là. Et on ne cherche pas particulièrement à le chasser. Ce qui veut dire qu'on peut très bien faire une demi-heure de méditation, et puis après la demi-heure, finalement, on a pris conscience de nos processus mentaux, on s'est rendu compte que c'était le bordel, on s'est rendu compte qu'on était peut-être un petit peu stressé, et donc après la demi-heure, on n'est pas particulièrement relaxé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bien médité. D'ailleurs, on ne peut pas bien ou pas bien méditer. Voilà. Il faut qu'il y ait un objectif pour pouvoir faire quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien. Donc la méditation, elle ne peut pas être bonne, elle ne peut pas être mauvaise, elle est juste méditation.
Le pont est tout trouvé pour aborder cette notion complexe peut-être pour certains, en tout cas pour moi elle l'est. Qu'est-ce qu'on appelle la pleine conscience ?
Ah, d'accord. Alors, la pleine conscience, c'est être pleinement à ce qui est. Et il faudra que je révise mes classiques, parce que je l'aborde dans mon livre et je commence par ça. Mais quelqu'un qui est considéré comme le spécialiste un petit peu de la pleine conscience, c'est le professeur Jon Kabat-Zinn. Et il a identifié 7 piliers de la pleine conscience. Ils doivent être... il y a
bon
l'esprit...
Courage. C'est comme les 3 mousquetaires, il en manque manque toujours le 4e.
Ouais, là, il va peut-être m'en manquer un petit peu plus, hein, mais il y a la confiance, l'esprit du débutant. Alors, on va rester sur ces deux-là. Pour les autres, lisez mon livre qui est gratuit en PDF. l'esprit du débutant et la confiance. C'est juste être pleinement... à ce qui est, avec un esprit de curiosité aussi. Et donc la pleine conscience, en fait, c'est de la méditation, mais appliquée à nos activités quotidiennes. Quand le terme méditation a été un petit peu dévoyé et utilisé à toutes les sauces pour déterminer tout et n'importe quoi. Je choisis d'utiliser le terme méditation uniquement pour renvoyer à la pratique assise. C'est-à-dire la méditation, c'est la pleine conscience à l'état pur. On est assis, on ne fait rien d'autre que d'être pleinement conscient. Et dans une journée normale, on peut très bien pratiquer en permanence la pleine conscience sans avoir à s'asseoir. Ça veut dire simplement être pleinement présent. Juste un exemple pour une mise en pratique très simple et très facile. On peut se réapprendre à se laver les dents, par exemple, en pleine conscience. On a plein d'opportunités dans la journée de pratiquer la pleine conscience. Et se laver les dents, c'est un super moment. La plupart du temps, on va se laver les dents en n'en ayant rien à faire du fait de se laver les dents. on va se laver les dents, mais en pensant à plein d'autres choses. À qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée, qu'est-ce qu'on doit faire après. En fait, on n'est pas conscient. On n'est pas vraiment en train de se laver les dents, on est en train de se laver les dents, mais en même temps de penser à plein d'autres choses, de penser à plus tard. La pleine conscience, elle nous invite à nous ramener à l'instant présent. Donc ce que je vous propose de faire, auditeurs, auditrices,
ça tombe bien, on est en pleine matinale, il y en a peut-être qui sont en train d'écouter Bartas en se brossant les dents.
Eh ben voilà, donc arrêtez de vous brosser les dents, continuez à écouter l'émission pour l'instant, hein, vous retournerez au brossage de dents après. Mais ce que vous pouvez faire, c'est avant de vous brosser les dents, avant même de rentrer dans la salle de bain, vous faites 3 respirations en pleine conscience. Vous vous arrêtez, vous restez immobile, statique, debout, et puis vous faites 3 respirations en portant votre attention sur le souffle, tout simplement. Et vous vous dites, ok, à partir de maintenant, tout ce que je vais faire jusqu'à ce que je sorte de la salle de bain, ce sera fait en pleine conscience, c'est-à-dire en portant uniquement mon attention sur ce qui est. D'accord, ce qui est en train de se produire. Ensuite, vous faites vos 2 pas pour rentrer dans la salle de bain et vous portez votre attention sur les pas que vous faites. Hein, vous prenez votre brosse à dents en pleine conscience en portant votre attention sur la sensation de pronation, le fait de prendre la brosse à dents, le poids de la brosse à dents. Vous mettez le dentifrice dessus, pas trop, c'est pas la peine, ça sert pas à grand chose. Hein. Dentifrice bio, bien sûr, de préférence. Et puis, vous vous brossez les dents et là, vous portez toute votre attention sur le fait de vous brosser les dents. Et puis, vous continuez comme ça jusqu'à sortir de la salle de bain.
La question peut paraître un peu désuète, mais c'est quoi l'intérêt? Ça apporte quoi?
Voilà, hein, on renvoie toujours à quel est l'intérêt.
Bah oui,
ok,
oui.
Je vais vous répondre sous forme d'expérience personnelle. En fait, lorsque l'on est pleinement conscient, il n'y a aucune souffrance qui peut subsister dans l'instant présent. Tout ce qui est jalousie, frustration, envie, colère, tous ces sentiments qui ne sont pas forcément très agréables, sans racine, en fait, peuvent exister via nos remémorations du passé et nos projections dans le futur. Mais lorsque l'on est pleinement présent, eh ben, tout ça, ça s'évanouit. Et tout le monde, tous les auditeurs, là, tout le monde, et toi y compris, le sait déjà. Inconsciemment. On le sait déjà parce que toutes les activités dans lesquelles on est pleinement présent, on les adore et on a tendance à les rechercher. Ça peut être par exemple, là je suis pleinement présent à ce que je fais et j'ai l'impression que c'est ton cas aussi. Mais toutes ces activités dans lesquelles on s'imprègne pleinement, on va avoir tendance à les rechercher. Quand on fait l'amour, par exemple, ou quand on lit un livre qu'on apprécie vraiment, ou quand on se concentre sur la nourriture. Mais, tu vois, là, j'ai nommé des activités particulières qui sont communes ou qu'on a l'habitude de faire et d'apprécier. Mais cette sensation, on peut la retrouver en permanence tout au long de la journée sans avoir ces activités particulières-là. On peut la retrouver en faisant rien du tout. On peut la retrouver simplement en buvant le thé le matin ou en buvant le café. On peut la retrouver simplement en se lavant les dents.
Voilà, en tout cas, bah, c'était une super réponse, celle que j'attendais. Alors, c'est sûr que la question de l'intérêt est toujours un petit peu bizarre. Est-ce que tout le monde peut méditer et est-ce qu'on peut le faire n'importe où ?
Tout le monde peut méditer, oui, alors ça, il n'y a aucun doute. Méditer, c'est simplement, donc je le redis, c'est simplement prêter attention à. D'accord ? Donc, l'idéal, ça reste quand même de s'asseoir. Parce que le geste de s'asseoir, il envoie un message assez fort, il dit, on va être là, on va rester là, quoi qu'il arrive, et on ne bouge pas. C'est pour ça aussi que la posture du lotus, on y reviendra peut-être plus tard, c'est peut-être pas la peine maintenant de rentrer trop dans ces détails-là, mais la posture du lotus a un intérêt particulier. Entre autres choses, on est tout emmêlé et le corps envoie ce message de dire « on ne bouge pas ». Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se présente à nous, on ne bouge pas. Tout le monde arrive à s'asseoir, normalement. Eh bien, la méditation, ce n'est pas grand-chose de plus. À partir du moment où vous asseyez et vous passez 5 minutes à juste être assis, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est très significatif et c'est beaucoup. Mais juste être assis, portez votre attention sur ce qui se présente à vous, et ben voilà, vous avez médité.
10 habitudes des gens heureux, c'est ton livre. D'où est partie l'idée de ce livre ?
Alors, j'ai passé pas mal d'années à lire divers livres de développement personnel, divers livres sur le bonheur, sur le bouddhisme, et à mettre en application la quasi-totalité de ce que je lisais, en fait. Et au bout de plusieurs années de pratique et de lecture, je me suis dit que peut-être que j'avais quelque chose à proposer. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre. C'est un livre, je crois, que j'aurais apprécié avoir au début de mon parcours, un petit peu vers le bien-être, vers le bonheur, parce que c'est une espèce de petite boîte à outils qui est simple, qui est accessible à tout le monde et qui est orientée pas mal sur la mise en pratique. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de la pleine conscience. Directement, j'ai essayé de donner un outil tout simple, de se brosser les dents en pleine conscience. Bah, c'est un petit peu ce que je voulais proposer avec le livre.
C'est ça, les buts sont nombreux, mais le principal, c'est vraiment de donner des clés pour se sentir bien et essayer d'aller aussi jusqu'au bout des choses, et se sentir sain de corps et d'esprit.
Eh bien, tu parles d'aller jusqu'au bout des choses, et ça, c'est le premier chapitre de mon livre qui s'intitule « Mener à terme ses projets ». Ce sera à refaire, peut-être que j'écrirai le livre de façon un petit peu différente, mais je m'étais dit, tiens, c'est pas mal de commencer par ça. Comment on fait pour mener à terme ses projets, et peut-être, du coup, par exemple, pour se mettre réellement à la méditation et pas simplement se dire, comme pas mal de gens. Ah ben oui, j'aimerais bien méditer, je m'y mettrai plus tard, quand j'aurai le temps. Ah non, la méditation, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, en fait.
Ouais, comme tu dis,
c'est pas plus tard, ça marche pas, on peut pas méditer plus tard, on ne peut méditer que ici et maintenant.
D'ailleurs, tu disais que c'était le début de ton livre, mais le début de ton livre commence sur une diatribe sur le bonheur, en fait, et,
oui.
J'ai eu l'impression, alors j'ai pas tout lu, j'ai pas eu le temps, mais j'ai lu quand même quelques passages, et que ça se rapproche de l'essai philosophique, c'était l'idée.
C'est qui a écrit l'essai philosophique? Ça me dit quelque chose.
Je sais pas, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est plus un essai philosophique, tout le début de ton livre, en tout cas, sur le bonheur.
Ah, oui, ben... J'ai appelé le livre « 10 habitudes des gens heureux ». D'accord ? Donc on a deux termes principaux dans ce titre. On a la notion d'habitude et la notion de bonheur. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal de commencer le livre par quelques lignes sur sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça et qui l'ont fait bien mieux que moi, donc je voulais pas refaire un essai, mais par contre juste poser quelques jalons sur ce qu'est le bonheur et quel intérêt est-ce que ça peut bien avoir.
Et on va revenir sur réussir une entreprise, j'entends par là n'importe quelle chose qu'on entreprend, c'est-à-dire tu donnes des conseils, et notamment écrire ses objectifs par exemple.
Oui.
C'est important.
Important, je sais pas, mais ça va au moins dans un premier temps grandement augmenter la probabilité d'aboutir. Le fait d'écrire, en fait, est un signal assez fort. Et c'est bien ça de le faire en pleine conscience, par exemple. Mais si on veut prendre un exemple assez concret, disons que vous ayez comme objectif de vous lever une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tôt tous les matins.
C'est un des chapitres de ton livre aussi.
Pour méditer un petit peu. Du coup, on trouvera le temps de méditer comme ça en se levant un petit peu plus tôt. Disons que c'est votre objectif. Le fait de le matérialiser par écrit, de manière visible dans votre appartement ou dans votre combi, si vous habitez comme moi dans un combi, mais le fait de le matérialiser par écrit de manière visible, à un endroit où vous le verrez tous les jours, je ne sais pas, sur un post-it par exemple, sur votre miroir, dans votre salle de bain, je vais me lever une demi-heure plus tôt, tous les jours, pendant un mois, et ben, ça va avoir un impact, ça va faire que l'idée va être un petit peu plus présente dans votre esprit et va avoir plus de facilité à se matérialiser. Une autre des propositions que je fais, c'est vous préparer un calendrier. Si vous vous dites que... Bah d'ailleurs, en ce moment, il y a le calendrier des pompiers, donc allez-y, profitez-en, hop, on fait d'une pierre deux coups, vous prenez le calendrier des pompiers, vous leur faites un don généreux, hein, et puis pour le mois de... et puis en plus, il y a les résolutions de la nouvelle année. Ça, typiquement, c'est à éviter, les résolutions, les trucs qu'on lance en l'air comme ça et qui ne sont pas suivis, qu'on ne fait pas. Si on fait ça trop régulièrement, notre esprit, notre cerveau va prendre l'habitude de se dire « Ok, ce que l'on envisage, si ce n'est pas réalisé, finalement, ce n'est pas important. » Si vous envisagez quelque chose, essayez de faire en sorte de le réaliser d'une manière ou d'une autre. Donc matérialisez-le par écrit, revoyez peut-être vos objectifs un petit peu à la baisse, pas trop non plus, mais par exemple, à la nouvelle année, bon, j'arrête de fumer. Et puis trois jours après, on a repris. Ben, plutôt que de dire j'arrête de fumer et puis qui est peut-être quelque chose d'un petit peu difficile, dites-vous, il y a plein d'autres possibilités. Donc, dites-vous, je ne fume pas un jour par semaine, par exemple. Ça peut être déjà pas mal. Hein, il y a une journée. Et ça, vous le matérialisez par écrit et vous vous mettez un calendrier et vous préparez déjà, vous écrivez sur le calendrier, dimanche, là, je ne fume pas. Dimanche, je ne fume pas, je ne fume pas, je ne fume pas. Et à chaque jour qui arrive, vous ne fumez pas. Et à chaque fois que vous n'avez pas fumé, vous mettez une croix. Et ça paraît tout con, mais si votre objectif peut devenir plus simple, en fait, ça peut devenir mettre une croix à chaque dimanche. Et vous allez la vouloir, cette croix-là. Et c'est quelque chose de plus matériel, en fait, que ne pas fumer. C'est quelque chose de plus matériel que vous allez avoir sous les yeux. Et donc, ça va faciliter la réalisation. Parce que vous aurez mis une première croix, vous serez tout content. Et vous la verrez, cette croix-là. Après, le lundi, bon, vous allez peut-être refumer, mais vous allez voir la croix du dimanche et vous allez dire « Ah, c'est cool, il y a la croix, là, je l'ai fait. » Et vous allez vouloir la croix d'après.
Alors tu disais, ça c'est intéressant, et tu disais aussi, enfin tu dis dans ton livre qu'il faut parfois aussi savoir s'arrêter. Alors ouais. Là on parlait d'arrêter de fumer mais rien à voir, c'est-à-dire c'est quoi, c'est aussi le fait de ne pas se mettre de, entre guillemets, de pression inutile, de stress.
Alors je sais que le livre peut parfois donner l'impression, c'est le terme que tu as utilisé, de « il faut ». Bon, en réalité, il n'y a pas de « il faut ». La vie est merveilleuse, la vie est miraculeuse, la vie est multiple aussi, et chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut, et c'est très bien comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de « il faut ». Je me suis perdu, redis-moi.
Je disais, donc je vais pas dire « il faut savoir s'arrêter », je vais juste dire, en tout cas, tu préconises de savoir s'arrêter.
Oui, c'était par rapport au fait de savoir s'arrêter. Oui, effectivement, si on se rend compte, savoir s'arrêter, si, ça va pas être forcément évident, mais si on reprend par exemple le truc d'arrêter de fumer, c'est pas la peine de se dire j'y arrive pas et de se flageller en se disant j'avais un objectif, je l'atteins pas, machin. Au lieu de faire ça, on peut se dire ok, cet objectif-là, à l'heure actuelle, pour l'instant, ça a l'air un petit peu trop compliqué à mettre en place pour moi. Donc, on arrête au sens où on oublie cet objectif-là et on le redéfinit, on change d'objectif. Donc, comme je l'ai dit, plutôt que d'arrêter directement, on va changer. On va se dire, ok, je change d'objectif, celui-là n'est pas forcément atteignable. J'arrête de m'essouffler à essayer de le poursuivre sans y arriver. Je change, je dis que je vais ne plus fumer un jour par semaine. Ou je dis que je vais prendre rendez-vous avec un hypnotiseur, par exemple. Parce qu'ils font des choses vraiment merveilleuses. Et on ne se contente pas de le dire à l'oral. Dès qu'on se dit ça, on fait une première action pour nous mettre immédiatement le pied à l'étrier. On ne laisse pas l'idée en suspens comme ça. Et oui, on va le faire, mais on va s'y intéresser plus tard. Et on peut, en 30 secondes, on regarde, on prend le numéro de téléphone d'un hypnotiseur et on prévoit de l'appeler la semaine d'après. Ou enfin, de l'appeler tout de suite, si on peut, pour prendre un rendez-vous, ou on se met un rappel dans le calendrier pour l'appeler un petit peu plus tard.
Alors, tu préconises aussi quelques conseils, j'allais dire, pour être heureux, hein, notamment vivre en réduisant son impact sur l'environnement. On en parle beaucoup, ça, en ce moment, c'est un peu...
Oui. Une de nos principales sources de souffrance est le fait de nous croire séparés de tout ce qui nous entoure. Lorsqu'on se croit séparé de tout ce qui nous entoure, ce qui est une illusion, comme nous l'a confirmé, comme nous le confirment, bien sûr, les... c'est pas le terme exact, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Mais comme nous le confirme la philosophie bouddhiste, mais comme nous l'a confirmé éventuellement, enfin, également, les dernières avancées de la science, en particulier en ce qui concerne la physique quantique. Mais lorsqu'on se croit séparé de tout ce qui nous entoure, séparé du reste, eh ben on a un petit peu une impression de fragilité et d'isolement et de solitude. Lorsque l'on prend conscience à quel point on est relié à tout ce qui nous entoure, je suis relié à toi, je suis relié à vous, auditeurs, et vous êtes relié à moi aussi. Mais lorsqu'on l'on prend conscience de ça, eh ben, ça nous libère d'une grande part de nos souffrances, et le fait de nous intéresser tout autant à ce qui nous entoure qu'à nous-mêmes, c'est source de beaucoup de joie et de bonheur, en fait.
C'est sûr. Et il y a un autre truc alors que j'adore, hein, perso, parce que j'ai la chance d'avoir le boulot que j'ai et de rencontrer plein de gens intéressants, passionnants et passionnés, apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Ça, c'est ultra important pour se sentir bien. Et,
Et ça, ça peut être fait de bien des manières. Mais une des manières que j'affectionne tout particulièrement, c'est de considérer chaque chose comme étant nouvelle. Lorsque chaque chose nous apparaît comme étant nouvelle, elle peut être source d'émerveillement. On va pouvoir regarder chaque lever de soleil en s'émerveillant de la même manière. Vous savez... Moi, je suis dans les Cévennes depuis pas très longtemps. Là, je trouve ça absolument magnifique. La nature y est vraiment merveilleuse. Et j'ai déjà entendu pas mal de personnes dire « Ouais, bon, enfin, voilà, donc, ça fait des années qu'on est là, c'est bon. » Ben, voilà, apprendre quelque chose de nouveau ou apprendre à voir chaque chose comme étant nouvelle.
Apporte l'émerveillement et le bonheur. Et puis, alors il y a un truc qui n'est pas forcément évident pour chacun, mais en tout cas qui peut être différent pour tout le monde, c'est être organisé.
Être organisé. Ça va me renvoyer peut-être au fait d'être organisé, en particulier dans son esprit. On a tendance à s'éparpiller pas mal et à essayer de faire plein de choses à la fois. Tu vois, rien que dans nos interactions qu'on a eues, là, je suis arrivé un petit peu plus tôt, et puis tu étais à la fois sur ton ordinateur, à la fois en train de faire le café et à la fois en train d'échanger avec moi. Et ça, c'est le quotidien de la plupart des gens, enfin de nos jours. On répond au téléphone en même temps qu'on est en train d'écrire un mail, en même temps qu'on est en train de faire plein de choses. Et l'intérêt d'être organisé, à mon sens, ça rejoint aussi la pleine conscience et d'essayer de faire en sorte de n'accomplir qu'une tâche à la fois. Ça va nous aider énormément, en fait, à être organisé et efficace. Ça ne veut pas dire qu'on se prive de faire plusieurs choses à la fois, mais qu'on a conscience au moins qu'en portant notre attention sur une seule et même chose, on va être plus joyeux parce qu'on va être plus dans l'instant présent et on va moins avoir cette sensation d'éparpillement là. Et on va être aussi plus efficace.
Merci beaucoup, ouais. Laurent.
Ben, merci à toi de m'avoir accueilli et puis merci aux auditeurs.
Hein. Merci Laurent et à bientôt.
Ouais, merci. Prenez soin de vous.
Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien, il fait beau, c'est l'été. On se quitte avec Picon mon amour. On se tâte la bigote. À mercredi, prenez soin de vous. Ciao.
Regarde-le-lui comme il est bien roulé. C'est un vrai homme crevette. Il y a tout qui est bon, sauf la tête. Lui, je l'ai serré, mais il est grave que c'est du cul. Et puis, il y a toutes mes copines qui sont passées dessus. Rien à faire, rien à faire, rien à faire, rien à faire. Lui, je me c'est fait pour la sentir. Tu peux y aller sur le côté, par-dessous, à l'envers ou par-dessus. Rien à faire, on a tout été déçus. Lui il est sexy mais quand il m'a ramené chez lui c'était pour pleurer sa mère qui est partie en Italie. Rien à faire,
rien à faire,
rien à faire,
rien à faire. Rien à faire. Non, c'est doudou.
Lui il est choupinou mais alcoolique au fond du trou à tous les coups. À minuit son bijou le plus impie, rien à faire.
Sacré faux plan au lit. Allez, balance ton corps bébé, allez. Bouge ton corps bébé, allez. Balance ton corps bébé. Allez, bouge ton corps bébé, allez. Balance ton corps bébé, allez. Bouge ton corps bébé.
Make it for the first year. About the juice, steak, money for care about. Who the same about the body, step about the I am Sansoné.
About the people, about the papa, about the mama, through the bal, 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 bal. Il est venu, rendu, rendu, car il est passé, pété, des capes, about the papa, about the gueule, mon papa, about the cadre, about the papa, about the gueule, mon père.
Wesh, wesh, gros, tu veux que je te pécho dans ma benz?
Laisse-moi, bon, bon, vous êtes dans ma benz, benz, benz.
Allez, vas-y, mon petit chou, et ramène tous tes friends.
Et un peu de sucre en poudre.
Et salut, bébé, viens prendre ta tétée. Oh, oh, un peu de patience, le voilà, ton téton, laisse béton. Laisse tomber, tout ce qu'ils veulent c'est tété.
Prends tes tétons dans ta tête.
Un téton dans sa tête.
Allez, balance ton corps bébé, allez. Bouge ton corps bébé, allez. Balance ton corps bébé.
Et dupe ton porcelet.
Allez, bouge ton corps bébé, allez. Balance ton corps bébé, allez. Bouge ton corps bébé.
Et dupe ton porcelet.
On mate, on tripote, on se tâte à la bigot.
Comme il est mignon. Son short, râle roupette. Lui, il veut qu'on sème ses pépettes.
Vas-y, on y va, il nous a regardé.
Attends, passe-moi ma casquette.
Bah alors, qu'est-ce qu'il y a, t'as mis un shorty et tu veux pas aller, arrête. Un petit mec comme ça, bien sapé comme toi, avec son shorty à rack, il voudrait me dire qu'il ne veut pas. Ah, ah.
Aéro, arrête de vrai mon salaud.
Ça ne chale pas comme ça.
Allez, balance ton corps bébé, allez. Bouge ton corps bébé, allez. Balance ton corps bébé.
Allez, bouge-moi ça là. Et petit bouge ton corps. Et petit popota. Et voilà, bouge-moi ça pour maman. Elle va être contente. Aïe aïe aïe. En plus t'es trop douche. Voyons voir un peu ce qu'on a là derrière.
Bouge ton corps.
Eh mais dis donc là. Eh oh là. C'est quoi ça? Moi je te paye à quoi boire et toi tu te barres. Ça fait une heure là que je me presse les citrons pour faire des jumeaux. Et toi tu restes rigide comme un religieux. Arrête ta fraise là.
Allez, balance ton corps bébé, allez. Bouge ton corps bébé, allez. Balance ton corps bébé.
Et dupe ton porcelet.
Allez, bouge ton corps bébé, allez. Balance ton corps bébé, allez. Bouge ton corps bébé.
Et dupe ton porcelet.
On batte, on tripote, on se tâte la bigote.